C'est l'heure du journal présenté par Anne Fockenberg. Bonjour Anne.
Bonjour Élise, bonjour à tous. L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza. Elle aurait pu être évitée sans l'obstruction systématique d'Israël, a accusé ce matin le responsable de la coordination des affaires humanitaires aux Nations Unies. Nous serons en direct avec Rosalia MacArthur, puis avec Christian Cheneau. Nous évoquerons le sort des habitants de la ville de Gaza alors qu'une offensive israélienne se prépare et qu'une enquête du Guardian révèle que 83% des victimes de la guerre entre Israël et le Hamas sont des civils. En Colombie, l'armée a été déployée à grand renfort dans le nord-ouest du pays après des attaques attribuées à un groupe dissident de l'ex-guérilla des FARC, précision dans un instant. En France, les partis politiques sont tous plus ou moins en train de se positionner par rapport à la mobilisation du 10 septembre pour bloquer le pays. Mouvement né durant l'été sur les réseaux sociaux, compte rendu à suivre de Mathilde Bouquerel. Et puis la Nouvelle-Calédonie, Manuel Valls termine son déplacement sur place et tente de mobiliser la population autour de l'accord de Bougival. Analyse de Stéphane Robert à la fin de ce journal. L'ONU a donc officiellement déclaré ce matin la famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient. Selon l'IPC, un organisme des Nations Unies installé à Rome, en charge de la classification de la sécurité alimentaire, le palier vient donc d'être franchi. Bonjour Rosalia MacArthur.
Bonjour.
500 000 personnes se trouvent dans un état catastrophique.
Oui, vous le disiez, cette famine est la première à toucher le Moyen-Orient après des mois de mise en garde et à une échelle massive, puisque d'après l'ONU, elle touche un demi-million de personnes. Concrètement, près d'un quart des Gazaouis souffrent de cette famine. Ils vivent principalement dans le nord, là où se trouve Gaza City. Sauf que la famine continue de s'étendre vers le sud. D'ici fin septembre, plus de 640 000 personnes seront touchées à Deir el-Balah et Khan Younes. La classification de famine est basée sur une série d'indicateurs. Les critères prennent en compte la part de la population touchée par la faim, des enfants malnutris et le taux de mortalité. Fin juillet, deux des trois seuils de famine avaient déjà été franchis sur certaines parties du territoire. Tom Fletcher, responsable humanitaire de l'ONU, estime que cette famine aurait pu être évitée. Il accuse directement Israël d'obstruction systématique. L'État hébreu se défend et dénonce un rapport biaisé fondé sur les mensonges du Hamas. Il n'y a pas de famine à Gaza, a affirmé le ministère israélien des Affaires étrangères.
Rosalia MacArthur. Israël qui menace aussi de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'accepte pas la paix à ses conditions. En début de semaine, le mouvement palestinien a en effet donné son accord pour une trêve de 60 jours au cours de laquelle les derniers otages israéliens seraient relâchés en deux temps. Mais le Premier ministre Netanyahou exige la libération de tous les otages en une seule fois et la pression s'intensifie donc sur Gaza. Le gouvernement vient de valider le projet de prise de contrôle de la ville, considéré comme le dernier bastion du Hamas. Et plus de 60 000 réservistes israéliens ont été appelés en renfort. Cette initiative est très critiquée au niveau international, alors que près d'un million de Gazaouis sont réfugiés dans cette ville. Bonjour Christian Cheneau.
Bonjour.
Une enquête du Guardian vient confirmer que les civils à Gaza sont condamnés.
En tout cas, ils sont en première ligne, ce que l'on savait depuis longtemps déjà. Mais le quotidien Bridading révèle des données inédites de l'armée israélienne qui éclaire le conflit d'une lumière crue. Une enquête réalisée avec des médias locaux, notamment 972 magazines, selon le Guardian, qui cite des sources du renseignement militaire israélien. 83% des 53 000 morts dans la bande de Gaza jusqu'en mai dernier dans des attaques directes seraient des civils. Les combattants du Hamas et du djihad islamique identifiés comme tels, eux, seraient au nombre de 8 900, soit 17% du total des victimes. Le journal constate que ce ratio entre morts civils et combattants apparaît comme extrêmement élevé dans un conflit contemporain. Il dépasse même celui des guerres civiles en Syrie et au Soudan. Ce taux s'est même aggravé depuis mai dernier quand les autorités israéliennes ont décidé de remplacer les agences de l'ONU par une pseudo-ONG américaine pour assurer les distributions de nourriture. Plusieurs centaines de civils palestiniens ont été tués autour des centres de ravitaillement. Sollicité pour répondre à l'enquête du Guardian, les autorités israéliennes ont indiqué que les chiffres publiés étaient incorrects, sans plus de précision. Ces statistiques concernent bien sûr les tués lors de bombardements ou de tirs de l'armée israélienne, mais ils ne prennent pas en compte tous les morts collatéraux des civils, en particulier des enfants et des nourrissons décédés à cause de la famine ou faute de médicaments et de soins médicaux.
Les précisions de Christian Cheneau. En Colombie, un important dispositif militaire a été déployé aujourd'hui dans le pays, conséquence de plusieurs attaques perpétrées par des groupes armés, attaques qui ont fait au moins 18 morts et des dizaines de blessés. Justine Leblond, les violences s'intensifient ces dernières semaines dans le pays.
Un camion piégé qui explose près d'une base aérienne à Cali, dans le sud-ouest du pays. Des images sur les réseaux sociaux montrent plusieurs personnes au sol, des flammes, des véhicules très endommagés. Au moins 6 morts et 60 blessés selon les autorités. Une attaque qualifiée de narco-terroriste par le maire de Cali. Et le matin même, une autre attaque de drone, cette fois plus au nord, à 150 km de Medellin. Une attaque contre un hélicoptère qui ciblait des opérations anti-drogue de la police chargée d'éradiquer des plantations de coca. Derrière ces deux scènes, les autorités pointent du doigt l'état-major central, l'un des principaux groupes dissidents de l'ancienne guérilla des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, celles qui ont signé un accord de paix historique en 2016, développe Gaspar Estrada, politologue.
Le problème de fond, qui est le problème de l'économie des drogues, est qu'il s'agit d'un marché extrêmement rentable et que malheureusement, cette politique a conduit à une fragmentation, une diversification des activités des cartels plutôt qu'à une éradication de ces derniers.
Cette intensification des violences s'accompagne d'une augmentation de la tension politique ces derniers mois, notamment après l'assassinat du sénateur de droite d'opposition, contexte qui fait craindre le retour à une période particulièrement violente que la Colombie a déjà connue à la fin des années 1980.
En Équateur, un journaliste a été retrouvé mort hier à son domicile. C'est le deuxième homicide d'un reporter depuis le début de l'année, selon une association de défense de la liberté de la presse. Et cela, ce n'était pas arrivé depuis 2022. La victime présentait notamment des blessures provoquées par armes blanches. Au Kurdistan d'Irak, une figure de l'opposition de la famille Talabani, l'un des deux clans au pouvoir, a été interpellé après des affrontements armés d'une rare violence. Il y a eu 3 morts du côté des forces de l'ordre. Il s'agit de la deuxième arrestation d'un opposant en moins de 2 semaine à Souleymaniyé, deuxième ville de cette région autonome. Dans le nord-ouest de l'Espagne, le dernier centre d'accueil de Ponferrada a fermé. Cette ville de la communauté autonome de Castille et Léon a accueilli plus d'une centaine de personnes pendant 2 semaines, essentiellement venant des villages des montagnes voisines où les feux ont été des plus intenses. Les habitants ont donc pu rentrer chez eux, mais revenir ravive aussi les souvenirs difficiles de l'évacuation et surtout la colère des habitants que vous avez rencontrés, Solène Delarquier.
Les collines autour de Boussas sont entièrement carbonisées. Seul le village est intact. Les traits tirés, Bellarmino a encore les images de la semaine dernière en tête.
Le feu me faisait tellement peur, je n'ai jamais vu ça de ma vie. On aurait dit qu'il venait de l'enfer.
L'éleveur évacue une partie de son bétail, puis avec une poignée d'amis, il remonte car il n'y a plus aucun pompier pour protéger la commune.
On était très peu, on a vraiment souffert. Le feu venait de tous les fronts. On a jeté l'éponge et on est sortis.
Il ne sait pas s'il doit la préservation du village au retour des pompiers ou à la chance. En revanche, lui a beaucoup perdu plusieurs animaux et toute son exploitation.
J'ai 57 ans et à mon âge, les 3600 hectares que j'avais ont disparu. Je suis prisonnier, je n'ai rien d'autre pour vivre.
Aujourd'hui, il dénonce la gestion de ces incendies.
On avait un bulldozer, il y avait des patrouilles, mais l'aide venue de l'extérieur a été lamentable.
À 15 minutes de route, la commune de San Cristobal a également été sauvée. Pilar, gérante d'un café, a été évacuée pendant 4 jours. Elle aussi estime que le gouvernement régional aurait dû faire plus.
L'aide est arrivée très tard. Et c'est incroyable qu'après 14 jours, un village soit encore en danger. Peñalba de Santiago, là-bas, ce sont les habitants eux-mêmes qui essaient d'éteindre le feu.
C'est ce que nous avons pu constater sur place. Quelques bénévoles et pompiers se relaient alors qu'un incendie dévore la montagne juste en face.
Reportage de notre envoyée spéciale Solène Delarquier. Et à côté de l'Espagne, le Portugal lutte toujours contre de violents incendies, dont un dans le centre du pays. Incendie qui mobilise près de 1600 pompiers appuyés par des moyens aériens. 60 000 hectares auraient déjà été dévastés. En France, alors que les appels à bloquer le pays se sont multipliés cet été sur les réseaux sociaux, en dehors des forces syndicales et des partis politiques, et que ce mot d'ordre se rapproche, il a été fixé au 10 septembre, sans que l'on sache vraiment l'ampleur que ce mouvement prendra. Les partis politiques saisissent l'opportunité, ils sont tous en train de se positionner. À gauche, notamment, il est clair qu'il faut soutenir les protestataires. Quant au RN, le parti a décidé ce matin de jouer une partition différente. Bonjour Mathilde Bouquerel.
Bonjour.
Pour le parti de Marine Le Pen, pas question justement de se positionner.
Oui, le Rassemblement national n'a pas vocation à être l'organisateur de manifestations, même s'il laisse ses sympathisants libres d'y participer ou non. C'est ce qu'explique la députée RN et vice-présidente du parti d'extrême droite, Edwige
Diaz. C'est la même position que nous avons adoptée au moment des manifestations des Gilets jaunes sur la réforme des retraites. Toutefois, nous sommes, nous, très préoccupés par les revendications des Français, notamment en matière de pouvoir d'achat. Et donc, en tant que premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, nous allons continuer de porter devant François Bayrou et devant l'Assemblée nationale nos propositions de loi, nos amendements, nos mesures pour restituer du pouvoir d'achat aux Français, ainsi qu'ils vont l'exprimer au moment de la manifestation du 10 septembre.
Mais le RN ne risque-t-il pas alors de rater le coche et de laisser ce mouvement à la gauche ? Au contraire, selon Edwige Diaz.
Nous risquons d'avoir une démobilisation populaire, précisément parce que M. Mélenchon récupère ce mouvement citoyen, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont contre Macron, mais qui ne sont pas pour autant pour Mélenchon et qui n'ont pas envie d'aller défiler avec les porte-paroles du Hamas. C'est pour ça que je dis que M. Mélenchon, via la récupération politique qu'il fait de ce mouvement, devient une fois de plus le meilleur allié de M. Macron.
D'autant que le Rassemblement national craint des débordements lors de ces manifestations.
Malheureusement, depuis les Gilets jaunes, il y a des intrusions de Black Bloc. On l'a vu avec les manifestations sur Sainte-Soline, on l'a vu avec les manifestations sur les retraites. À chaque fois, des Black Blocs s'infiltrent avec le seul objectif de faire le plus de dégâts possible.
Des dégradations dont la facture pèserait ensuite sur les Français, selon Edwige Diaz.
Explication de Mathilde Bouquerel. En Nouvelle-Calédonie, Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, poursuit son déplacement pour la mise en œuvre de l'accord de Bougival, accord signé en juillet dernier par les indépendantistes et les non-indépendantistes, mais finalement rejeté par les militants du FLNKS qui représentent une partie des indépendantistes. Aujourd'hui, le ministre a participé à un débat télévisé avec des citoyens calédoniens sur la chaîne Outre-mer La Première Nouvelle-Calédonie. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Anne.
Manuel Valls a tenté de rassurer et de convaincre que l'accord de Bougival est la seule voie possible pour l'avenir de l'archipel.
Oui, le ministre a d'abord rappelé que l'accord de Bougival offrira une stabilité politique indispensable à l'avenir de l'archipel.
Pour stabiliser la situation de la Nouvelle-Calédonie et pour permettre la reconstruction économique et sociale et pour que les investisseurs puissent revenir et sans un accord qui illumine l'horizon. Et il y a une très grande inquiétude sur l'avenir.
Puis il a répondu aux interrogations, par exemple sur la création d'un État calédonien.
Sur Facebook, on sent que les gens sont parfois perplexes. Hein. Il y a Gilbert qui dit que deux nationalités dans un même État, c'est juridiquement impossible.
Je réponds à Gilbert. Donc, ce que nous essayons de faire depuis 40 ans, c'est de réussir quelque chose qui apparaît impossible. C'est de concilier deux aspirations contradictoires, différentes. La volonté de l'indépendance, ou l'accession à la pleine souveraineté pour la Nouvelle-Calédonie, et de l'autre côté, la volonté de rester dans la France. Et donc, à partir de là, on invente un chemin commun pour éviter l'affrontement.
L'accord prévoit également le dégel du corps électoral pour les élections locales, et c'est ce qui avait déclenché l'insurrection d'une partie de la jeunesse kanak et les émeutes en mai 2024.
Alors moi, c'est en fait le dégel du corps électoral. C'est le fait de donner moins de chance à la population kanak. Du coup, je trouve que ce peuple, il est vraiment un peu plus mis de côté.
En 1918-1920, il y avait entre 20 000 et 30 000 kanaks. Aujourd'hui, il y a 120 000 sur ce territoire. Personne ne peut penser qu'ils sont minorés. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Manuel Valls a ensuite rappelé que l'accord de Bougival, qui prévoit encore la création d'une nationalité calédonienne et un possible transfert des compétences régaliennes, avait été signé par toutes les délégations début juillet, y compris celle du FLNKS, et que le président du FLNKS lui-même avait donné son accord. Il a aussi indiqué qu'il doit être validé par la population calédonienne à travers un référendum en février 2026 et donc qu'il n'est pas imposé de force. C'est pourquoi il a décidé de mettre en œuvre le processus de validation malgré le revirement du FLNKS. Conscient toutefois du risque que sa décision comporte, il a également décidé de prolonger son séjour jusqu'au début de la semaine prochaine pour continuer à répondre au scepticisme et aux interrogations.
Merci Stéphane Robert pour votre compte-rendu. La ministre déléguée à la ville, Juliette Méadel, a plaidé ce matin à Strasbourg pour un grand débat sur la drogue en France. Elle a insisté sur la prévention de la consommation et elle compte s'appuyer sur la mise en place de maisons de l'enfance et de la réussite éducative dans les 1600 quartiers de la politique de la ville, avec la présence de psychologues. La météo, tous les départements sont sortis de la vigilance orange, pluie, inondation, météo agréable cet après-midi, soleil partout en France et des températures qui ne dépasseront pas les 30 degrés. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.